Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Lula contre Bolsonaro, ce sera peut-être l'affiche de la présidentielle au Brésil l'an prochain. Le 8 mars dernier, la saga judiciaire de l'icône de la gauche brésilienne a connu un rebondissement spectaculaire. Un juge de la Cour suprême a annulé toutes les condamnations pour corruption et blanchiment d'argent dont faisait l'objet Luiz Inácio Lula da Silva et l'a rétabli dans ses droits politiques. En clair, l'ancien président brésilien au pouvoir de 2003 à 2010 est à nouveau éligible et peut postuler à un troisième mandat. Lula n'a pas encore fait part de ses intentions, mais il semble avoir déjà commencé à préparer le terrain.
Je sais que j'ai été victime du plus grand mensonge juridique de l'histoire du Brésil. Donc s'il y a un Brésilien qui a raison de se sentir profondément blessé, c'est moi. Mais je ne ressens pas de douleur. Parce que la souffrance du peuple brésilien, la souffrance des personnes pauvres au Brésil, est infiniment plus grande que n'importe quel crime qui a été commis contre moi. La douleur que je ressens, moi, ce n'est rien. Elle est beaucoup moins importante que celle ressentie par presque 270 000 Brésiliens qui ont vu leurs proches mourir, décédés du Covid-19. Et cela sans dire au revoir, sans avoir ce moment sacré qui consiste à regarder un être aimé pour la dernière fois.
L'annulation des condamnations de Lula marque-t-elle la fin d'un long feuilleton judiciaire ? Celui qui fut le premier président brésilien issu de la classe ouvrière fait-il encore figure de messie pour la gauche dans son pays ? Ou son image a-t-elle été écornée par ses démêlés avec la justice ? À 75 ans, est-il le mieux placé pour battre Jair Bolsonaro ? Ce dernier risque-t-il de payer cher sa gestion calamiteuse du coronavirus ? On en débat avec nos invités. À mes côtés en studio, Armel Enders, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et rattaché à l'Institut français de géopolitique. En ligne avec nous, Maud Chiriot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maître de conférences à l'université Gustave Eiffel. En ligne avec nous également, Hervé Théry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS CREDA et professeur à l'université de São Paulo. Maud Chiriot, vous qui suivez de près l'actualité brésilienne, est-ce que vous vous attendiez à ce coup de théâtre judiciaire ?
Non, je ne m'y attendais pas, ni la défense de Lula, ni personne. Il y avait une campagne qui était en cours, qui est la sixième ou septième campagne, qui demandait à la Cour suprême d'annuler les procès à l'argument de ce vice de procédure qui est l'incompétence du tribunal, qui a été posé sur la table par la défense depuis 2016, mais qui n'avait jamais été entendu. Donc la campagne a marché de manière extrêmement précoce et personne ne s'y attendait puisqu'elle était prévue pour durer 3 mois. Elle était organisée pour durer 3 mois. C'est dire si c'est un élément imprévu et c'est dire si ce qui se trouve derrière, c'est-à-dire les équilibres et les relations de pouvoir entre les juges de la Cour suprême et les pressions qui s'exercent sur eux, sont extrêmement obscures et non accessibles, y compris à des personnes qui sont au centre du jeu, en particulier Lula et son entourage.
Hervé Théry, la balle est maintenant dans le camp des 11 juges de la Cour suprême qui devront trancher en session plénière sur l'annulation des condamnations de Lula, puisque l'appel du parquet contre ces annulations a été rejeté le 12 mars. Est-ce qu'un nouveau rebondissement peut se produire avant la présidentielle de 2022 qui empêcherait Lula de se présenter ?
C'est peu probable parce que ce qui a été annulé, c'est la procédure qui a été faite à Curitiba et donc il faut tout recommencer à zéro à Brasilia. En fait, c'est ça qui a été décidé et donc ça va être très très long. Il faut refaire toute la procédure et donc il est très peu probable que ce soit fait avant l'élection et quand bien même ça le serait, une bonne partie des faits seront prescrits. Donc pour ce qui est de Lula, on peut penser qu'effectivement lui sera sur ces affaires-là à du temps et un temps qui irait au-delà de l'élection.
Alors, on l'a entendu au début de l'émission, Lula reste convaincu qu'il a été victime d'un complot politique. Est-ce que c'est crédible ou pas, Armel Enders ?
C'est tout à fait crédible, c'est même probable. Le mot complot est un peu gênant dans le contexte complotiste que nous vivons, mais on a une situation quand même peu commune au Brésil, qu'il faut remonter, je pense, à la réélection de Dilma Rousseff en 2014, que la droite brésilienne traditionnelle n'a pas pardonné, le parti PSDB, et c'est enclenché à ce moment-là toute une logique, d'abord de destitution, de chasser le PT du pouvoir.
Le Parti des Travailleurs. Cofondé par Lula.
Et donc, beaucoup d'acteurs se sont mêlés. La justice, enfin une partie de la justice, hein, toutes les institutions ne sont pas monolithiques. Mais en tout cas, c'est tout à fait crédible et tout à fait même logique. Hein, la lecture des événements le montre.
Mais Hervé Théry, sur le fond de l'affaire, est-ce que Lula était irréprochable ?
Je ne sais pas. Je veux faire la seule réponse honnête que je puisse faire. De toute façon, ce qu'on lui reproche, c'est des peccadilles par rapport à d'autres procès. Et je pense qu'il y a aussi une convergence. C'est que lui, on va en bénéficier. Bon, tant mieux pour lui. Mais il y a toute une offensive de toute une partie de la classe politique pour casser l'opération Lavajato. Puisque beaucoup
la
de gens,
lavage express, hein, cette opération donc qui avait révélé, peut-être qu'il faut le rappeler, le vaste réseau de pots de vin autour de la compagnie publique pétrolière Petrobras.
Et de quelques autres. Et donc il y a un certain nombre de politiciens qui sont allés en prison, il y en a d'autres qui se sentent menacés parce qu'ils savent bien ce qu'ils ont fait, et donc ils sont assez contents d'une certaine façon de rendre service à Lula, mais surtout de casser la crédibilité de l'opération. C'est plus large que le cas de Lula, bien plus large.
Et est-ce que la lutte anticorruption fait toujours partie des préoccupations des Brésiliens ? Est-ce que ce sera un enjeu de la campagne électorale pour la présidentielle, Maud ?
Oui, alors bien entendu, le thème de la corruption est central dans l'espace public. Le problème, c'est que la corruption au Brésil est un phénomène massif, un phénomène structurel qui sert à financer la vie politique, mais que c'est également deux choses, une thématique extrêmement manipulable par les médias, qui sert à discréditer ou créditer des figures politiques et qui a servi très très directement à créditer et légitimer la figure de Bolsonaro, qui n'a absolument rien d'une figure propre, ni dans ses comportements personnels, ni dans les comportements de son entourage, et que par ailleurs, le thème de la corruption a été un élément qui a été directement utilisé pour éliminer un camp politique, à savoir la gauche, par des secteurs conservateurs qui avaient collectivement décidé, finalement complètement indépendamment de leur propre position à l'égard de la corruption et en général en étant eux-mêmes traversés par des affaires et des comportements qui étaient totalement illégaux, d'utiliser cette thématique et son écho dans l'espace public pour, d'une part, éliminer Dilma Rousseff, qui n'avait absolument rien à se reprocher pourtant, et ensuite pour éliminer Lula de la course à la présidentielle qu'il aurait probablement gagné. Et donc, c'est assez compliqué à imaginer, car le problème dans les deux années à venir ne va pas être tant la réalité de la corruption, mais qui est le plus habile à manipuler cette thématique pour en faire un atout politique. Et pour l'instant, ça c'est assez incertain, parce que certes, comme le dit Hervé Théry, le fait de discréditer les enquêtes et d'utiliser peut-être le fait de Lula pour discréditer l'ensemble des enquêtes est quelque chose auquel une partie de la classe politique a intérêt, car elle tente elle-même d'échapper à des procédures, mais également toute une partie de la classe politique et de l'État et de larges secteurs politiques refusent complètement, absolument, de voir la gauche revenir au pouvoir. Et c'est le cas des forces armées qui sont très décidées et très organisées pour empêcher que ce soit issu du camp progressiste revienne au pouvoir. Et ça, c'est une grande incertitude qui dépasse une réflexion sur le jeu électoral et même sur l'opinion.
Mochirio, vous parliez à l'instant de l'entourage de Jair Bolsonaro. Les fils de l'actuel président ont des problèmes avec la justice. Est-ce que c'est une épine dans le pied de leur père ?
On peut l'espérer. Bolsonaro a quatre fils, hein, ayant dit que sa fille était une erreur de fabrication. Hein. Il a quatre fils et actuellement, ils sont tous sous le fait d'enquête pour des faits de corruption. Donc oui, c'est une caractéristique assez profonde qui correspond de manière complètement classique au type de profil politique de cette famille, hein, c'est-à-dire des élus locaux, régionaux, de peu d'importance, qui sont extrêmement insérés dans à la fois des liens avec des entreprises locales et avec des organisations qui fonctionnent avec des pots de vin comme les milices. Et donc, c'est pas une surprise en fait que l'entourage de Bolsonaro soit complètement à la fois lié à des milieux criminels et empêtré dans des affaires de corruption. On le savait et on l'a vu cohabiter avec le discours de l'homme propre, le discours de l'outsider qui était extérieur à la classe politique. La question est surtout de savoir qui va miser sur Bolsonaro ? Parce que les pratiques de ces personnalités importent bien moins que la communication qu'ils arrivent à en faire, l'utilisation des médias, l'utilisation des réseaux sociaux et à quel point le discours qu'ils portent sur eux-mêmes devient l'image publique. Et c'est assez compliqué de comprendre le Brésil maintenant, parce qu'en fait, ce que font les gens ne détermine plus ni s'ils vont être condamnés par la justice, ni s'ils vont conserver une popularité politique, car à la fois le système d'information et l'état de droit sont si dégradés qu'on ne peut plus se fonder sur ces piliers d'une société politique qui fonctionne correctement.
Hervé Théry, Lula n'a pas encore dit s'il serait candidat ou pas en 2022. D'après vous, est-ce qu'il a envie, à 75 ans, de se lancer dans la bataille, ne serait-ce que pour prendre sa revanche de 2018, où sa candidature à un troisième mandat avait été invalidée et où il avait assisté depuis sa cellule à la victoire de Bolsonaro?
Non, je lui ai pas parlé récemment, je lui ai jamais parlé, mais je crois que tous ceux qui regardent un peu la presse et les médias savent qu'il en meurt d'envie, ça me paraît clair. À la fois, parce que c'est un animal politique qui a fait toute sa carrière comme ça, il a été bloqué au moment où il allait se présenter l'autre fois, et là il y a cette bénédiction qui lui tombe dessus, je serais vraiment extrêmement étonné qu'il ne souhaite pas être candidat. En 2016, il a vraiment accepté du bout des lèvres, 3 semaines avant l'élection, de passer la main. Et donc, je crois qu'il en a très envie cette fois-ci.
Armel Enders, en 2018, Lula a été largement en tête des intentions de vote. Aujourd'hui, 2 sondages récents donnent à Lula, alors je sais pas si vous en avez d'autres, vous, mais 50% des intentions de vote contre soit 44%, soit 38% à Bolsonaro. Est-ce que ça veut dire que l'image de l'ancien président de gauche a tout de même pâti de ces démêlés judiciaires?
Alors, l'image de Lula a pâti de ces des accusations de corruption. Mais je voudrais revenir là-dessus aussi sur le fait de la corruption. Je pense que la corruption, c'est aussi ce qu'expliquait Maud, une sorte de façade, de prétexte, enfin d'argument qui cache pas les vraies raisons d'adhésion à Bolsonaro et de discrédit du PT. Si les Brésiliens avaient vraiment été contre la corruption, ils auraient conservé Dilma Rousseff et ne l'auraient pas destitué. Je rejoins absolument Maud sur ce sujet, et je pense que le rejet du PT portait sur d'autres questions, peut-être moins nobles, le fait d'avoir appliqué des politiques de redistribution, enfin toute une classe qui s'est sentie déclassée par la politique du PT et qui a exprimé à la faveur de la crise économique son désaveu. Donc je pense que vraiment c'est la bouteille à l'encre, cette histoire de corruption, mais ça ne reflète pas du tout en fait les vrais enjeux politiques.
Alors aujourd'hui, l'image de Lula, on le dit aussi adulé que détesté. Alors, qui le déteste et qui l'adule?
C'est toujours le cas, effectivement. C'est un personnage clivant, comme l'ont été d'ailleurs les grands leaders de la gauche brésilienne dans l'histoire du Brésil. Alors, il y a vraiment un rejet de Lula qui n'est pas très compréhensible logiquement. C'est le rejet des milieux d'affaires, parce que sous la présidence Lula, les milieux d'affaires et même les plus riches ont parfaitement profité de cette période-là. Donc,
c'était une période de forte croissance.
Alors, ça tenait aussi à la croissance chinoise. Il y avait une conjoncture particulièrement favorable. Mais donc, c'est vraiment sans doute un problème de vision du Brésil et du fait de refuser la promotion de la partie la plus pauvre du Brésil. Enfin, c'est très clair.
Parce qu'en plus, il faut peut-être aussi rappeler la trajectoire de Lula, donc ouvrier métallurgiste devenu président de la République,
c'est vraiment une trajectoire exceptionnelle. La vie de Luiz Inácio da Silva Lula est vraiment, vraiment extraordinaire. Et l'éclat qu'avait le Brésil sous sa présidence, enfin les couvertures de journaux internationaux avec Lula, homme de l'année du monde en 2009, si je ne m'abuse, enfin c'était vraiment tout à fait fort. Alors la présidence absolument désastreuse de Bolsonaro fait de Lula un recours quand même. Il a quitté la présidence avec 87% d'opinion favorable en 2010. Donc, il y a eu ensuite une déconstruction effectivement tout à fait spectaculaire de son image. Mais il est possible que la magie se réveille, ne serait-ce que par contraste avec Bolsonaro.
Et pour les classes populaires, il restera à tout jamais celui qui a sorti de la misère plus de 30 millions de Brésiliens.
Lula, c'est bastion quand même encore très fort dans le Nord-Est, dans des régions les plus pauvres. Je pense que c'est quelque chose de fort, mais qui a pu aussi être modifié par les années précédentes. Donc, mais il reste tout à fait important, bien sûr.
Alors, a priori, on pourrait penser que le retour de Lula dans l'arène politique est un coup dur pour Jair Bolsonaro. Or, beaucoup d'analystes y voient plutôt une aubaine pour le président sortant. Est-ce que c'est votre cas, Hervé Théry?
Oui, je pense que c'est effectivement l'adversaire dont il rêvait, parce qu'il a surfé, il a été élu de façon assez inattendue sur le rejet du PT par une partie de l'opinion. C'est pour ça que Bolsonaro a été élu. Puisque effectivement, Armel a raison, il y a toute une partie de l'opinion qui l'idolâtrait, mais pendant ce temps-là, il y avait des ressentiments qui s'accumulaient dans une autre partie de la population, qui le supportait pas, et ça s'est traduit par l'élection. Il y avait beaucoup de gens, même pas spécialement militants, dans un sens ni dans l'autre, qui disaient dans tout plutôt que le PT. C'est pour ça qu'ils ont porté leur vote sur quelqu'un dont on savait qu'il n'était pas très, ni très honnête, ni très brillant, ni qu'on pouvait pas en attendre grand-chose. C'était une sorte de bénédiction qui a pour Bolsonaro et les gens qui le soutenaient.
Mochirio, vous êtes d'accord? Bolsonaro préfère affronter un gauchiste plutôt qu'un centriste?
Alors, Lula est tellement pas un gauchiste, surtout en l'utilisant dans le vocabulaire français, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est de centre-gauche, qui a gouverné au centre-gauche et qui actuellement se positionne au centre. Donc, c'est vraiment pas un gauchiste, en fait. Après, qu'en pense le camp de Bolsonaro? Je n'ai pas parlé depuis longtemps à Lula et j'ai jamais parlé de ma vie à Bolsonaro. Donc, comme Hervé Théry, je ne sais pas ce qui est dans sa tête, ni dans la tête de son entourage large, parce qu'il va pas décider tout seul de sa stratégie politique. Mais moi, je pense qu'en tout cas, s'il en a pas peur, il se trompe, parce que c'est évident que l'antipétisme, l'hostilité au PT a été un moteur absolument fondamental de son ascension politique à Bolsonaro. Mais de toute façon, il me semble que le PT n'était pas disposé à quitter la scène politique et aurait tenté de maintenir, voire de se mettre au centre d'un jeu, d'un front progressiste. Or, parmi le PT, même si Lula est une figure clivante, il me semble aussi le plus à même de reconquérir une partie des électeurs qui se sont dirigés vers Bolsonaro parce qu'il était différent, parce qu'il avait un parler populaire, franc, qui rompait avec une classe politique extrêmement classique et méprisée globalement pour plein de raisons. Et je pense, on le sait, et c'est assez perturbateur de le penser, mais énormément d'électeurs de Lula ont été des électeurs de Bolsonaro. Et je ne suis pas convaincue que cela soit définitivement incapable de revenir à Lula, plus encore qu'au Parti des travailleurs. En particulier, hein, je pense à... On dit souvent, est-ce que les classes populaires sont définitivement acquises à Lula? On regarde dans les sondages que les classes populaires ont des choix en fait politiques très variés qui dépendent énormément du niveau de scrutin. Est-ce que c'est un scrutin municipal, de l'État ou national? Et en fait, les classes populaires, c'est plus une catégorie qui est suffisante. D'autres catégories en fait sont très pertinentes pour penser les comportements électoraux actuellement. Le lieu où on vit, être classe populaire à la campagne ou dans des périphéries où le poids, par exemple, de la religion et des temples évangélistes est extrêmement fort. L'âge, il existe toute une génération de classes populaires qui n'a connu que le PT, qui a grandi dans le PT, a considéré que le PT, c'était l'establishment et que tout ce qui allait mal dans le pays, en fait, était associé au PT au point d'adhérer à des idées ultra-conservatrices en vogue à cette époque-là. Et donc, tout ça, en fait, complexifie beaucoup l'adhésion à un projet politique et implique que finalement, ceux qui vont paraître, à mon avis, comme en proposant autre chose, avoir un effet d'alternance et de proposer autre chose que ce qui est rejeté, vont en tirer profit. Et actuellement, j'espère en tout cas que Bolsonaro va apparaître comme ce qui existe, ce qui va mal, et finalement lui choisir quelque chose d'opposé, mais qui continue d'avoir un rapport électoral distinct du reste de la classe politique, à savoir Lula, peut lui profiter. Mais après, je ne vois pas dans le futur, je n'ai pas de boule de cristal, et comme je le dis souvent, se projeter en 2022, actuellement, vu l'état de dégradation de la démocratie brésilienne, vu les forces armées extrêmement vigilantes, vu la poursuite d'une possibilité de manipuler le judiciaire, est un peu prématuré. On n'est pas du tout sûr que le jeu politique puis le jeu électoral et la campagne se déroulent dans le cadre d'un véritable respect des règles d'un état de droit. Et donc, c'est peut-être plutôt à ça qu'il faut être attentif, plutôt que tenter de se projeter déjà en 2022.
Mochirio, Armel Enders, Hervé Théry, je vous propose de faire une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler du Brésil et du séisme politique provoqué par l'annulation des condamnations pour corruption de Lula. Décision qui rend possible un duel Lula-Bolsonaro l'an prochain à la présidentielle.
Priorité santé.
Céline Guillaume vous invite à poser vos questions.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. À nouveau éligible après l'annulation surprise de ses condamnations pour corruption, l'ex-président brésilien de gauche Lula pourrait bien postuler à un troisième mandat l'an prochain et affronter son ennemi juré, l'actuel chef de l'État, Jair Bolsonaro. Comment ce retour de Lula dans l'arène politique redistribue-t-il les cartes de la présidentielle de 2022? On en débat avec trois spécialistes du Brésil, Mochirio, Hervé Théry et Armel Ender. Jair Bolsonaro traite déjà Lula de tolard et de charognard. Lula qui est menacé de mort sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut craindre le pire pour la campagne électorale, Hervé Théry?
Je pense que oui. Déjà, ça fait quelques années que ça dure et ça a tendance à s'accroître et ça s'industrialise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment maintenant des entreprises qui se chargent de diffuser dans les groupes WhatsApp et qui prennent de l'avance. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'une mesure impopulaire ou une annonce impopulaire va être faite, ils annoncent, attention, on va vous raconter des cracks, on va vous raconter quelque chose de faux. Et donc, les gens sont inondés à l'avance du côté de la méfiance. Et donc, quand la nouvelle sort, alors qu'elle est correcte, elle est interprétée comme une confirmation que les médias sociaux avaient raison et que donc, il faut pas la croire. Et ça se diffuse beaucoup. Ma belle famille en reçoit et en repasse beaucoup. Bon, je regarde ça avec beaucoup de distance, mais ça arrive dans les smartphones de millions de personnes.
Armel Enders, ce sont les milices digitales de Bolsonaro qui sont derrière ces menaces de mort lancées sur les réseaux sociaux contre Lula.
Oui, ce sont ces milices digitales et puis ce qu'on appelle le cabinet de la haine, hein, qui est au sein du palais présidentiel et dont sont un de ses fils, qui joue un rôle d'ailleurs très important, Carlos Bolsonaro, qui était dans la limousine présidentielle le jour de l'investiture avec le président. C'était le seul de ses fils qui était là. Et je pense que c'est un symbole important du rôle essentiel qu'il joue, qu'il a joué dans la campagne et qu'il continue à jouer pour attaquer toute forme d'opposition.
Mochirio, quelle est la position de l'armée? Est-ce que les militaires sont aujourd'hui à la manœuvre, en coulisses, derrière la politique officielle du régime Bolsonaro?
Oui, très clairement, et ils sont directement responsables, en fait, parmi d'autres facteurs, hein, d'avoir permis que Bolsonaro arrive au pouvoir. Bolsonaro, c'était initialement une figure qui était surtout populaire parmi les polices militaires et les échelons inférieurs des forces armées, mais qui, à partir de 2017 et surtout 2018, a été coopté par les états-majors, hein, vraiment, hein, par les hauts commandements des trois forces armées, pour être le candidat de l'armée, le candidat du parti militaire. On sait depuis quelques semaines que Lula, que son emprisonnement, c'est-à-dire le fait qu'il ne bénéficie pas d'un habeas corpus et donc qu'il soit concrètement emprisonné en avril 2018, a été réalisé sous pression du haut commandement de l'armée de terre exercé sur la Cour suprême. L'ancien commandant de l'armée de terre, le général Villas-Boas, vient de le révéler dans un livre de témoignages. Et on sait également, depuis là quelques jours, qu'en septembre, un accord a été noué entre la Cour suprême et le commandant-chef de l'armée de terre pour que Lula demeure en prison et ne perturbe pas le scrutin présidentiel et donc ne risque pas de favoriser la candidature de Fernando Haddad qui s'opposait à Bolsonaro. Donc le haut commandement a directement exercer une manipulation du jeu politique pour permettre la victoire de Bolsonaro. Et ensuite, on a retiré les fruits qu'ils attendaient, c'est-à-dire une participation énorme au gouvernement. Le gouvernement est désormais extrêmement militarisé et surtout un investissement massif de l'ensemble de l'appareil gouvernemental et d'État. Actuellement, l'État brésilien est extrêmement militarisé, y compris avec des officiers d'active, ce qui était complètement en dehors des pratiques lors de la République, qui à mon avis n'existe plus complètement, hein, la République civile qui a succédé à la dictature militaire. Et ce que l'on sait des discussions internes actuellement à l'armée, c'est que la majorité écrasante des officiers, quel que soit désormais leur rang, que ce soit des capitaines ou des généraux, considèrent que leur place dans l'État est les énormes bénéfices financiers qu'ils en retirent sont désormais quelque chose à laquelle personne n'est disposé à renoncer. Et donc, le parti militaire, ce qu'on appelle le parti militaire, c'est-à-dire comment l'armée devient une force politique, y compris un fournisseur d'agents pour l'État, va appuyer pieds et poings un candidat, un parti qui leur proposera strictement la même chose. Et pour l'instant, c'est Bolsonaro. Et pour l'instant, Lula, d'autant plus qu'il radicalise légèrement ses propos à l'égard de l'armée. Il avait toujours dit qu'il pensait que l'armée était très légaliste et qu'il fallait travailler avec elle. C'est de moins en moins le cas. Il risque d'apparaître à l'armée comme non seulement un communiste avec le couteau entre les dents et un corrompu notoire, ce qui est le discours sur Lula depuis très très longtemps dans une partie des cercles militaires, mais comme quelqu'un qui va desservir les intérêts de l'armée et donc qu'il est inadmissible, impossible de voir revenir au pouvoir. Et c'est ça qu'on a en perspective. C'est-à-dire on a bien vu aux États-Unis que finalement il y avait une possibilité que le processus électoral ne soit pas respecté. Il y a tout un tas d'acteurs qui ont considéré que les élections présentées comme fraudées étaient donc quelque chose à ne pas respecter. Mais au Brésil, on est dans une situation différente. On est avec un président qui est encore moins démocrate que Donald Trump et encore plus disposé à ne pas accepter un jeu normal politique et électoral. Et on n'est pas simplement avec des milices de fous qui investissent le Capitole. On est également avec une armée qui est tout à fait, à mon avis, dans un très grand nombre de ces secteurs, disposés à empêcher, de la manière évidemment la plus discrète possible, que la gauche revienne au pouvoir. Et ça, c'est une donnée brute qui ne va pas changer et dont on ne sait pas exactement quoi faire.
Armel Enders, vous êtes d'accord avec l'analyse de Moltirio sur cette menace qui pourrait venir de l'armée ?
Alors, je suis tout à fait d'accord. L'idée même d'une intervention directe et plus visible sera utilisée en dernière chance. Hein. Mais moi, ce que je redoute beaucoup, c'est aussi une forme de mexicanisation du Brésil.
C'est-à-dire
hein, et d'une corruption aussi au sein des forces armées, que ces intérêts corporatistes que Maud vient de présenter, idéologiques, corporatistes, et puis aussi d'enrichissement et d'être un acteur des différents trafics.
Hervé Théry, votre point de vue sur la question ?
Je suis assez d'accord, si ce n'est qu'il y a quand même quelques revers. Là, le ministre de la Santé militaire spécialiste de la logistique a été complètement incompétent. Il est en train d'être remplacé. On a déjà le nom de son successeur. Donc ça, c'est pas très bon pour l'image de l'armée, puisqu'il a été incapable de distribuer les vaccins, l'oxygène, etc. Donc ils ont effectivement pris de solides positions un peu partout, mais sur la base d'une réputation d'incorruptibilité dont Armel vient de parler, qui est un peu menacée, et de compétences qui est aussi, dans certains domaines, a atteint largement ses limites.
Alors Hervé Théry, vous parliez à l'instant de la crise sanitaire. Le Brésil est aujourd'hui le deuxième pays au monde, derrière les États-Unis, le plus touché par la pandémie de coronavirus, avec 285 000 morts en un an. On a vu Jair Bolsonaro, comme son ami Donald Trump, minimiser la crise, s'opposer au confinement, au port du masque. Début mars, il a même appelé les Brésiliens à arrêter de geindre. Est-ce qu'il ne risque pas de payer cher dans les urnes sa gestion du Covid ? Armel Enders.
Alors, il commence à payer, je dirais pas suffisamment cher à mon avis, mais dans les sondages, l'incohérence de sa politique et surtout les résultats. Là, en l'occurrence, il y a une conjonction de phénomènes. D'abord, des sondages très défavorables, l'apparition de Lula comme recours, qui ont fait que tout d'un coup, Bolsonaro a changé de discours, s'est mis à porter un masque
voilà, et se met à nier. Voilà, en public avec un masque, alors que jusqu'à présent, il l'avait toujours refusé. Voilà.
Et en plus, a nié qu'il ait jamais sous-estimer la menace de la pandémie, enfin contre toute logique et toute vérité.
Et c'est du pain béni pour Lula qui, la semaine dernière, avait invité les Brésiliens à ne pas suivre, je cite, les décisions imbéciles de Bolsonaro, Moltirio. Donc c'est logique ce virage à 180 degrés du président sortant ?
Alors c'est logique, ça montre que...
Logique mais tardif.
Tardif, et ça montre que le retour de Lula, c'est-à-dire le retour en fait d'une autre grande figure nationale qui est capable, sa conférence de presse qui avait effectivement des allures de meeting, a été un énorme événement politique et donc a fait peur visiblement à une partie du palais. La question est de savoir dans quelle mesure le discours qui va être changé, hein, là le général Heleno, qui est la grande figure tutélaire de ce gouvernement dans l'armée, s'est fait vacciner à grand renfort de communication, dans quelle mesure cette tentative de réinformation et de reconstruction de l'image qui vise à effacer un an de gestion de la pandémie est maintenant encore possible. Bolsonaro, c'est quand même une figure qui a profité d'une grande crise démocratique et qui a profité d'une image d'outsider. Et dans quelle mesure tout le système de politique de Bolsonaro repose ou non sur le maintien d'une image d'outsider ? Est-ce que quand on a été au pouvoir longtemps, on peut encore manipuler massivement l'opinion avec des messages WhatsApp, des fake news, etc. On n'en a pas énormément l'expérience, en fait, parce que c'est des figures qui sont assez récentes. J'ai l'espoir, en fait, que l'adhésion idéologique profonde à Bolsonaro ne soit pas quelque chose qui puisse être majoritaire au Brésil. Il semble dans les sondages que ça ne l'est pas, et que sa capacité à remplir la tête de n'importe quoi et de désinformation, en particulier sur la gestion de la pandémie, soit quelque chose qui soit beaucoup moins possible maintenant que quand il était une figure très périphérique, très provocatrice, c'est-à-dire pendant la campagne de 2018. Et donc, j'espère qu'il ne va pas y arriver, en fait.
Armel Enders.
Dans les divers sondages de ces derniers jours, il y avait une question intéressante. 45% des Brésiliens ne font jamais confiance aux déclarations du président. Et ceux qui lui font toujours confiance sont ces 20%, c'est-à-dire vraiment son socle. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une très grande majorité de Brésiliens qui font plus ou moins confiance aux déclarations du Brésil. C'est quand même un taux de perte de crédibilité qui est quand même tout à fait remarquable.
Hervé Théry, de quel bilan va pouvoir se prévaloir Bolsonaro alors qu'il a donc lui-même reconnu en janvier que le Brésil était en faillite et qu'il ne pouvait rien faire?
C'est-à-dire que comme il n'est pas tenu par le principe de réalité et de non-contradiction, ce qui le met assez à l'aise, je pense qu'il va pouvoir affirmer, comme on le voit dans les propagandes qui circulent sur les réseaux sociaux, que c'est le meilleur président que le Brésil ait jamais eu, que la prospérité du pays est inouïe, enfin, un peu comme Trump. Il n'a aucun scrupule à avancer des choses parfaitement fausses.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de cette déroute économique?
Alors, pour l'instant, c'est pas très sensible parce que c'est quand même un gros paquebot, le Brésil, donc ça tourne pas si vite que ça. Mais les résultats économiques sont pas si mauvais que ça. Il y a les aliments ont augmenté dans ce qui touche la population, notamment la population pauvre. Mais pendant que ça s'agite dans la superstructure, ça continue quand même à avancer. Le vrai problème, c'est le problème sanitaire. Le problème économique est un peu moins lourd. Et donc les milieux d'affaires restent quand même grosso modo derrière lui, donc ça c'est quelque chose qui va lui rester. Ses principaux appuis, les 3 B, là, la balle, le bœuf et la Bible, restent assez fermes. Donc il n'a pas vraiment besoin de dire que l'économie va bien. Il peut le prétendre contre toute vérité, mais ça ne lui sera pas incriminé.
Mais quand on voit la flambée des prix, Armel Enders, elle est quand même énorme pour les plats de base des Brésiliens, pour le riz, plus 70% pour le riz, plus 52% pour les haricots. Donc ce sont les couches les plus populaires qui payent le prix fort de cette crise économique, de cette crise sanitaire aussi.
Oui, et ça c'est en général rédhibitoire pour les gouvernements brésiliens en place. Hein. C'est le prix de la vie, le pouvoir d'achat, ça touche à la survie hein, pour certaines classe sociale brésilienne. Donc ça va aussi contribuer à vraiment saper la popularité de Bolsonaro.
Mochirio, est-ce que Lula est en mesure de rassembler toute la gauche pour battre Bolsonaro? Dans quel état est aujourd'hui le Parti des Travailleurs dont il était le cofondateur?
Alors, la gauche n'existait plus, en fait. Il n'y avait plus d'opposition au Brésil. C'est assez terrible à regarder, hein. Mais il n'y avait plus de capacité de la gauche sur la scène politique à proposer une opposition, une alternative, pour plein de raisons, hein. Parce qu'elle est extrêmement divisée et elle est structurée autour d'un antipétisme pour une partie des gens. Alors, gauche, je parle large, hein. Je vais jusque bien loin dans le centre, hein. Mais pour toute une partie des acteurs qui ont été soit des partenaires, soit des rivaux du PT, ce qui s'était passé autour du PT était devenu l'argument pour dire plus jamais le PT devant, quoi. C'est-à-dire plus jamais le PT portant la candidature, éventuellement en deuxième place. Et ça, c'était une conviction qui s'est ancrée dans les imaginaires des partis, des partis plus à gauche que le PT ou plus à droite. Et c'est difficile de savoir à quel point cette logique a disparu. Et néanmoins, le PT n'a jamais renoncé, en fait, à se considérer comme ce qu'il est, c'est-à-dire encore le plus grand parti à gauche, la plus grande force militante, même si c'est une force qui a été considérablement amoindrie ces dernières années. Donc, on était sur une indécision jusqu'au retour de Lula sur la scène politique, et cette indécision semble s'être largement amincie parce que Lula est la seule figure qui, actuellement, est largement devant dans les sondages, n'a pas un taux de rejet massif. C'est-à-dire que c'est la figure qui a quasiment le moindre taux de rejet parmi les candidats qui sont envisageables. Et je pense que ce que doivent se dire tout un tas de gens, c'est il va bien falloir qu'on accepte Lula malgré tout ce qu'on avait espéré sur la reconstruction autour d'autres figures d'une gauche antifasciste et d'alternance. Donc ça, c'est mon avis et je pense que je suis capable de changer d'avis très rapidement en fonction de l'évolution de la situation parce que je pense qu'elle est très, très labile.
Hervé Théry, est-ce qu'un candidat centriste, je pense par exemple au gouverneur de São Paulo, João Doria, peut émerger suffisamment pour troubler l'éventuel duel Lula-Bolsonaro en 2022?
Ça me paraît assez peu probable. En fait, il s'est largement compromis avec Bolsonaro, donc ça le plombe de ce côté-là. En particulier, il a vigoureusement défendu la lutte contre la pandémie, ce qui n'était pas le cas du gouvernement fédéral. Et comme São Paulo, c'est plus de 40 millions d'habitants, ça pèse. Mais je pense pas qu'il ait vraiment un charisme en dehors de São Paulo qui le permette. Et donc, effectivement, le retour de Lula met tout ça vraiment au deuxième ou troisième plan. Et il faut quand même se rappeler que Lula, entre ces deux élections, a changé d'électorat. Il avait été porté au pouvoir plutôt par la gauche, les syndicats, l'Église, et entre les deux élections, grâce à ses politiques de redistributives, il avait acquis l'appui des pauvres et du Nord-Est. Et donc c'est ça qui est maintenant le cœur de la campagne, c'est qui va avoir le vote des pauvres et du Nord-Est. Et la distribution ou pas de l'aide d'urgence qui a été décidée hier va peser beaucoup, puisque effectivement les gens sont les plus pauvres sont un peu le couteau sous la gorge à cause du prix des aliments, et donc cette distribution pour des montants qui, vus d'ici, paraissent très bas, va être déterminant. Il faut quand même rappeler que c'est le prix du pain qui a fait le 14 juillet en France, 14 juillet 89. Donc pour beaucoup de gens, c'est vraiment une question de survie. Et celui qui apparaît comme capable de leur donner de quoi survivre encore quelques jours de plus, Lula il y a longtemps, peut-être Bolsonaro maintenant, ça va peser beaucoup. Le socle est assez ferme des deux côtés, entre 20 et 30% de chaque côté, pour Lula et pour Bolsonaro. Et c'est la masse de manœuvre du milieu qui va se décider et qui va décider l'élection à partir de critères totalement imprévisibles d'aujourd'hui.
Dernière question, comment les pays latino-américains ont-ils réagi à l'annulation inattendue des condamnations de Lula et à sa possible candidature en 2022, Mochirio?
Alors, je ne sais pas exactement quels ont été les contacts. Lula a depuis assez longtemps, en fait, un certain nombre d'alliés, hein, Fernandez en Argentine, qui le soutient, qui l'a toujours appuyé. Et, Lula continue d'avoir, en fait, des réseaux latino-américains. Il y a une organisation qui s'appelle le groupe de Puebla, qui réunit les chefs d'État progressistes ou de gauche, avec plein de profils, hein, très variés, depuis plus centristes aux plus radicaux à l'intérieur de l'Amérique du Sud. Et il a toujours ce capital, en fait, qui est un réseau qui a continué de défendre la thèse et maintenant la réalité d'une déformation de la démocratie brésilienne et qui est totalement disposé à accompagner le combat très dur politique qui peut être celui entre Lula ou le camp progressiste en dehors de Lula et Bolsonaro qui pour l'instant effectivement comme l'a dit Hervé Théry continue d'avoir l'appui des intérêts financiers et des milieux d'affaires. Donc il ne part pas à la bataille tout seul d'un point de vue latino-américain.
Armel Lenders.
Je suis d'autant plus d'accord avec Maud qu'il y a depuis quelques mois aussi un peu un retour de ces de forces qui ont été écartées du pouvoir. Victoire de Fernandez en Argentine, en Bolivie aussi le retour du MAS. Avec une nuance quand même, les scandales ont laissé des traces en Amérique latine. Notamment, on parle de Petrobras, mais avec Petrobras, il y avait la société de BTP Odebrecht qui alimentait la corruption dans beaucoup de pays, et notamment au Pérou, ça a valu quand même le suicide d'Alan Garcia. Donc, en tout cas au Pérou, le Odebrecht renvoie plus ou moins quand même à la gestion du PT au Brésil. Et là, il y a quelques réserves. Voilà.
Armel Lenders, Mochirio, Hervé Théry, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission géopolitique. Armel Lenders, je renvoie les auditeurs à la réédition augmentée de Histoire du Brésil aux éditions Chandaigne, une histoire qui va jusqu'à l'élection de Bolsonaro en 2018. Mochirio, vous avez publié La politique en uniforme, l'expérience brésilienne aux presses universitaires de Rennes en 2016. Et Hervé Théry, vous avez signé en 2016 également le Brésil, pays émergé, chez Armand Collin. Merci à Cécile Lavolo qui m'a aidé à préparer cette émission et à Jérémy Besset qui l'a réalisée. Bonne semaine, à bientôt.